C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Ça fait 23 jours que l'armée russe a fait une incursion et a commencé à pilonner l'Ukraine. C'est une guerre très controversée et quelque chose qui a surpris beaucoup d'analystes, là, pas juste ici en Amérique du Nord, en Europe aussi, c'est le fait que l'armée russe, qui est considérée évidemment comme une des plus puissantes au monde, il y a beaucoup d'analystes qui ne la trouvent pas très, très efficace sur le terrain. On va parler de tout ça avec Richard Blanchette, major général à la retraite et expert associé au Collège militaire royal de Saint-Jean. Il a été major général, je l'ai dit, dans les forces armées et il a servi au quartier général de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Monsieur Blanchette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, parlez-moi de ce que les analystes comme vous, là, la communauté des analystes militaires, pensent de ces trois semaines et plus de guerre de l'armée russe en Ukraine.
Je vous dirais qu'au niveau opérationnel, ça, c'est le niveau un peu au-dessus de la tactique. Le plan de campagne des Russes ont vraiment sidéré la plupart des analystes parce qu'ils ont une approche extrêmement étrange, avec autant d'axes de pénétration. On se serait attendu à ce qu'ils respectent le principe de guerre numéro un, qui est le choix et le maintien de l'objectif. Et leur objectif était de sortir du paysage politique le président Zelensky. Ils auraient dû se concentrer sur Kiev, alors qu'ils ont envoyé ce qui était probablement leur meilleure force dans le sud, et ils ont également continué à essayer de pousser davantage dans les deux territoires là, de Luhansk et Donetsk. Alors, dans ce sens, dans leur planification de campagne, la plupart des analystes sont plutôt surpris.
Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Est-ce que c'est le fait que les Russes, est-ce que c'est l'aviation? Est-ce que c'est la précision de leur artillerie, le moral des troupes? Qu'est-ce qui vous a le plus sidéré?
Je vais vous dire bien franchement, c'est davantage au niveau tactique que j'ai été étonné. Il y a des manœuvres, il y a des exercices militaires que nous, Canadiens, faisons assez fréquemment, qu'on appelle les combats dans les agglomérations. C'est probablement pour n'importe quel officier ou sous-officier le plus grand défi qui existe, parce que vous avez besoin de vraiment un leadership très solide, un ravitaillement sans faille et une capacité de communiquer avec vos éléments qui sont sur le terrain dans des situations toujours extrêmement dangereuses, parce que l'avantage est tout à fait à ceux qui sont sur la défensive. Et dans ce sens, je n'ai pas vraiment lu de rapport encore qui me donnait l'impression que les Russes utilisaient ces tactiques de base qui permettent par la suite de tenir le terrain. Cette notion-là de tenir le terrain, ça appartient vraiment à l'infanterie. C'est pas avec les blindés que vous êtes capable de faire ça. C'est pas avec votre artillerie. C'est pas avec votre aviation. C'est vraiment avec les fantassins au sol. Et ça, ça ne semble pas se passer, à moins que nous ne soyons coupés des communications et qu'on soit pas en mesure de voir ce qui se passe. Mais au contraire, les Ukrainiens, eux, utilisent leur infanterie de façon extrêmement efficace, en frappant, en étant souples, en se fondant dans la population et dans le construit citadin d'à peu près tous les endroits autour des grandes villes et même dans les zones un peu moins peuplées.
Est-ce que, trouvez-vous que c'est une armée compétente?
Je pense que la plupart des analystes, et je suis un de ceux-là, va commencer à changer un peu son opinion sur l'armée russe. J'ai déjà eu des officiers russes sous mon commandement lorsque j'ai servi au Rwanda. J'en ai connu dans des rencontres au niveau de l'OTAN, parce que nous avions bien sûr le conseil OTAN-Russie qui nous permettait, quand les relations étaient bien meilleures avec la Russie, de discuter avec ces personnes que nous appelions des collègues à l'époque, mais avec ce que nous voyons, leur façon de se comporter sur le terrain qui viole absolument toutes les conventions internationales, c'est vraiment décevant de voir comment ce théâtre d'opération est en train de se développer.
Je lisais une analyse hier d'un Russe d'origine, Kamil Galev, qui est avec un institut américain qui s'appelle le Wilson Center, qui expliquait là sur Twitter que l'armée russe dans la société russe, c'est pas une institution qui est si valorisée que ça, et qu'on n'attire pas nécessairement les meilleurs éléments de la société. Comme par exemple, on peut le voir aux États-Unis, il y a des gens qui font carrière, c'est une institution qui est valorisée aux États-Unis. Pensez-vous que ceci peut expliquer cela?
Vous avez raison de le mentionner. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un principe de guerre. Le deuxième principe de guerre, c'est le moral. Le moral des troupes et le moral, actuellement, on voit une asymétrie extraordinaire dans le sens où les Russes ont le moral relativement à terre malgré tout ce que le président Poutine veut essayer de démontrer à sa population. C'est très difficile pour eux. Et je vous noterai peut-être qu'il y a eu un changement par rapport à ce que vous avez dit. Je dirais que après la période, disons, après le début des invasions, lorsqu'il y a eu la prise de la Crimée et ensuite des deux territoires séparatistes, il y a eu quand même une remontée de l'image de l'armée dans la population grâce à un ministre de la Défense qui a quand même fait du bon travail là pour essayer de prendre l'ascendant sur les non pas les forces spéciales mais les forces de sécurité là qui assurent la sécurité du président Poutine. C'est vraiment davantage les forces militaires maintenant qui ont la responsabilité de cette campagne.
OK, je veux qu'on parle un peu de la Chine. La Chine n'est pas un protagoniste dans cette guerre là, monsieur Blanchette, mais quand même la Chine pèse lourd. La Chine est un allié au moins informel de la Russie. Qu'est-ce que vous décodez des propos du président chinois dans sa conférence avec Joe Biden?
Vous remontez la discussion, bien sûr, au niveau stratégique et effectivement, c'est d'une importance capitale compte tenu que le président Biden a tenté de convaincre son homologue de ne pas saper l'énergie des sanctions, de ne pas faire en sorte que une coopération ou même une tolérance du comportement russe fasse en sorte que les sanctions soient moins efficaces. Mmh. Alors, dans ce sens, il y avait vraiment un très grand défi pour le président Biden. Est-ce qu'il a réussi? Eh bien là, il faudrait avoir été une mouche sur le mur là pour mm-hmm. comprendre. J'ai pas lu encore les rapports sur ce qui s'est passé exactement, mais je crois qu'il y aura beaucoup de travail pour les diplomates pour continuer de s'assurer que les Chinois vont être relativement neutres ou même être davantage de notre côté et qu'ils puissent profiter à long terme d'aller du côté des gagnants parce que l'Ukraine semble être gagnante, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est ce qui semble se dégager grâce à la férocité avec laquelle les Ukrainiens se battent.
Richard Blanchette, qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour la suite des choses? Est-ce que c'est que Poutine a fait allusion au fait qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire? Est-ce que c'est le fait que Poutine ne semble pas avoir de bonnes options pour sauver la face? Qu'est-ce qui vous inquiète?
Ce qui m'inquiète le plus au niveau personnel, et j'ai déjà parlé là, de la question là, de la tolérance à la terreur ou à l'horreur, pour moi, c'est déjà dépassé dans le sens que la façon dont ils s'attaquent aux civils, c'est vraiment une situation qui est extrêmement difficile à vivre, non pas seulement pour les civils, mais également pour les militaires qui doivent décider s'ils vont baisser les armes ou s'ils vont continuer à se battre. Alors, quelle est leur tolérance à cette horreur? Ce n'est pas très clair. Et bien sûr, celui qui a le plus de poids sur les épaules, c'est encore le président Zelensky qui, avec son leadership, est vraiment sous pression actuelle. Et quand on regarde ce qui se passe à Mariupol, est-ce qu'ils vont réussir à tenir? Ce n'est probablement qu'une question de temps, même si les Ukrainiens parviennent à faire de plus en plus de contre-attaques et essayer de briser l'anneau de fer qui est autour de la ville, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'y ait vraiment un dénouement à ce niveau-là. Et là, il y aura un corridor qui va permettre aux Russes de relier les territoires séparatistes à la Crimée. Et ça, le bon côté, c'est que peut-être que cela pourrait permettre un dénouement au niveau diplomatique, un vecteur qu'il ne faut jamais négliger en temps de guerre.
Avez-vous l'impression qu'on vit une sorte de retour vers le passé? J'en parlais dans ma chronique dans la presse aujourd'hui. Moi, je suis un enfant de la guerre froide. Vous étiez soldat pendant la guerre froide. J'ai l'impression qu'on revient à un mur qui va séparer deux parties du monde.
Ce n'est pas impossible et il va falloir être extrêmement prudent dans l'établissement de ce mur-là. Les quatre ou cinq pays de l'OTAN qui sont sur cette frontière-là à laquelle vous faites référence vont devoir être très disciplinés dans leur réaction. On a vu le bombardement il y a quelques jours sur Yavoriv, mm-hmm. et sur Lviv ce matin. Je pense que les Russes n'hésiteront pas à continuer à utiliser leur doctrine d'attaque en profondeur. Et cela peut faire qu'il y ait vraiment un dérapage à un moment donné sur cette très longue frontière que l'Ukraine a avec les pays limitrophes. Et de quelle façon est-ce que ça pourrait mettre le feu aux poudres? Ça prend vraiment pas beaucoup d'imagination là pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Et dans ce sens-là, il va falloir que tous les pays de l'OTAN, de notre alliance, soient extrêmement disciplinés et fassent extrêmement attention à ce qui se passe. Surtout qu'on a un très gros exercice au nord, peut-être êtes-vous au courant, à l'effet qu'il y a l'exercice Cold Response, où est-ce qu'on a plus de 30 000 hommes et femmes qui sont déployés, surtout un exercice maritime, mais avec la Norvège qui est au centre de ces activités-là. Alors, c'est une véritable poudrière que nous voyons en Europe orientale pour l'instant.
Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous parler, Richard Blanchette.
Merci, M. Lagacé. Au revoir.
Salut, à la prochaine. M. Blanchette est major général à la retraite, expert associé au Collège militaire royal de Saint-Jean et un ancien militaire ayant servi au quartier général de l'OTAN. Conférence de presse aujourd'hui pour annoncer le prolongement de la ligne bleue du métro dans l'est de Montréal, 5 stations jusqu'à Anjou d'ici 2029. Au mois d'avril dernier, Québec avait renvoyé tout le monde à la planche à dessin parce qu'il y avait des dépassements de coûts qui étaient inquiétants. Et en fait, je dois vous dire, les coûts de ce projet-là, ça fait longtemps que ça en empêche la concrétisation. On parle de 30 ans au moins de discussion. Là, la facture serait autour de 6,4 milliards. C'est une bonne nouvelle pour les gens de l'Est de Montréal. Justement, on a une députée de l'Est de Montréal, de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau est aussi ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Madame Rouleau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Ben, écoutez, Oui, pas aucun problème. Écoutez, ça fait 30 ans qu'on en parle, que ça branle dans le manche. Là, pourquoi ce serait vrai cette fois-ci?
Ben, c'est vrai cette fois-ci parce que le projet a été optimisé pour penser vraiment aux usagers. On a 5 stations. On autorise la STM à aller en avis de qualification pour le tunnelier. Ça, c'est extrêmement important.
C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ça veut dire que c'est un appareil assez important là qui va creuser dans le sol pour créer le tunnel qui va permettre au métro d'exister. Alors, aller en appel de qualification, c'est d'aller aller auprès de ceux qui ont ce type de machinerie-là, donc avoir leur intérêt, puis ensuite appel d'offres, puis contrat, puis on démarre la machine. Fait que on octroie aussi, ben ça c'est une très très bonne nouvelle, c'est 1,120 milliards de dollars qu'on attribue à la STM pour la réalisation de la ligne bleue, pour le maintien des infrastructures de métro et de l'accessibilité, mais 577 millions là, qu'on leur donne, là, je vous dirais, entre guillemets, cash pour la ligne bleue. Fait que le bureau de projet a tout ce qu'il faut pour continuer son travail avec la nouvelle mouture qui a été présentée aujourd'hui.
Mais comprendriez-vous les gens de l'Est de Montréal d'être un peu sceptiques parce que j'ai dit 30 ans. Il paraît qu'on a commencé à en parler il y a 40 ans.
Absolument, je vous comprends. Et on ne peut plus être sceptique face à la réalisation. On a cinq stations. Là, ce que j'ai annoncé aujourd'hui, c'est 5 stations. En plus, on a 2 édicules de part et d'autre de l'A25. Ça, c'est un gain majeur pour l'Est.
Des édicules, c'est-à-dire des entrées pour la station
de
métro.
La station de métro, elle va être située sous la 25, l'autoroute 25. Alors, de chaque côté, on va avoir des entrées. Fait que, du côté est de l'autoroute 25, c'était un désert là, en termes de transport, d'accessibilité. Et même de traverser l'autoroute 25 là, pour ces gens-là à pied, c'est pas possible. Alors maintenant, il y a par le métro, il y aura une meilleure fluidité là, pour les gens de ce côté-là qui maintenant vont être desservis. Je parlais avec des gens même qui sont à Anjou, qui travaillent à Anjou, qui demeurent à Pointe-aux-Trembles, qui disent « Wow, quelle bonne nouvelle, c'est bon ». Pour nous aussi, ça vient vraiment désenclaver de manière importante l'Est de Montréal.
On commence à creuser quand?
Bien, là, on donne l'argent à la STM, qui est responsable du projet. La STM, comme je vous dis, va en appel de qualification. Fait que là, c'est une question de quelques mois pour recevoir les dossiers, les montées, aller en appel d'offres là pour avoir la bonne machine. Et puis je peux pas vous dire exactement combien de mois là. Je voudrais vous dire dans quelques semaines, mais ça sera pas vrai. Fait que ça. Mais, le plus rapidement possible. Mais c'est une question de mois, là, à peu près, peut-être autour d'un an.
OK, parfait. Écoutez, vous étiez là, la mairesse Plante était là, Pablo Rodriguez était là pour représenter le fédéral qui contribue aussi. La mairesse a profité de la conférence de presse pour passer un message, encore une fois, pas à propos de la ligne bleue, à propos du REM de l'Est, OK? Là, la Caisse de dépôt infra, c'est l'organisme qui développe le REM de l'Est, le REM au complet. Et la mairesse, ça fait longtemps qu'elle le dit, elle veut une voix, elle veut être consultée, elle veut un rôle formel, et je vais vous citer ce qu'elle a dit, puis je vais vous entendre là-dessus. Il faut que Caisse de dépôt infra nous dise clairement et publiquement si oui ou non elle veut avoir la Ville de Montréal autour de la table. Tout le monde le dit, la Ville, la population, le gouvernement, je les invite à être très clairs. Madame Rouleau, est-ce que ça a du bon sens que la Caisse de dépôt est en train d'organiser son REM à Montréal et que Montréal n'ait rien à dire?
Bien, écoutez, je ne veux pas contredire la mairesse parce qu'on discute beaucoup ensemble. L'enjeu là, dans tout ça, c'est pas que de dire est-ce que la ville est à la table, parce que la ville est à la table.
Oui, mais une question, est à la table, mais est-ce qu'elle a un pouvoir à la table?
Bien, le pouvoir de la ville, c'est dans l'aménagement. On a dit un REM bien intégré dans le milieu. Alors, la Caisse de dépôt construit un train léger aérien, et en partie souterrain. Dans l'aérien, il faut s'assurer de la meilleure intégration possible. C'est certain que la ville a un mot à dire. C'est certain que la ville a un mot à dire dans la façon l'intégration là, des différentes stations. Et là-dessus, on y travaille très bien ensemble. Parce que, en fait, le message, là, c'est que ce soit un projet commun. Projet de la Ville de Montréal, projet de la Caisse de dépôt et projet du gouvernement.
Mais pour l'instant, c'est pas commun, Madame Rouleau. Là, la Caisse décide pas mal de A à Z. Là. Je veux dire, la Ville peut pas dire non, on veut pas que ce soit comme ça.
Bien, je veux vous rappeler qu'on a créé ensemble, là, les trois, la Ville, la Caisse de dépôt et le gouvernement, un comité d'experts justement pour s'assurer de la meilleure intégration, justement pour... Ça fait partie, ça, de toute la consultation.
Mais il n'y a pas d'élu de Montréal là-dessus. Il n'y a pas d'élu de Montréal là-dessus.
Bien, il y a des représentants de la Ville de Montréal.
Mais il n'y a pas d'élu.
Non, il n'y a pas d'élu sur ce... Il n'y a personne qui voulait qu'il y ait d'élu sur ce comité-là. Ce sont des spécialistes, ce sont des professionnels dont... un professionnel de la Ville de Montréal qui est sur ce comité-là, un représentant du MTQ aussi. Alors, il y a des gens, puis des gens, des architectes, des urbanistes, des gens spécialisés dans le monde des affaires, dans la culture, dans l'aménagement de territoire. C'est ça le comité, ce comité d'experts là, qui a déposé des recommandations la semaine dernière.
Ce qui est construit présentement, par exemple dans l'Ouest, le surélevé sur le bord de la 40. Là.
Oui.
Trouvez-vous ça beau?
Ce que je vais vous dire, c'est pas une question est-ce que c'est beau ou c'est pas beau.
Ben oui, ça fait partie de l'équation.
Deux secondes. Quand ça a été fait, là, il n'y avait pas d'intérêt de personne de penser à une intégration urbaine parce que ça longeait des autoroutes. Le REM 1, là, le REM de l'Ouest, longe des autoroutes. Le REM de l'Est, quand l'idée est arrivée, là, quand on a conclu, oui, c'est un REM de l'Est qu'on veut, on a dit, nous avons tous dit, il faut qu'il soit très bien intégré au milieu.
Mais,
alors, on prend.
Mais vous avez vu, je comprends que c'est sur le long d'une autoroute, là, mais pas de raison pour rendre ça encore plus laid. Je vous repose la question. C'est-tu beau?
L'image du REM de l'Est, par exemple.
Je le croirai quand je le verrai. Est-ce que vous trouvez ça beau dans l'Ouest?
Monsieur Lagacé,
oui ou non?
Permettez-moi de vous dire que quand on fait des plans et que ces plans sont conçus par des ingénieurs, des architectes, des urbanistes et qu'on nous montre un dessin, c'est parce que ce dessin-là, il est réaliste. Et moi, là, comme j'ai contribué à bâtir des choses, et quand on arrivait à un dessin qu'on présentait à la population, c'est parce que c'est ça qu'on voulait réaliser. Alors, ce que je vois de ce qui est proposé par CDPQ Infra, c'est ce qui sera réalisé. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on peut s'assurer? Puis là, c'est ça la question. S'assurer que ce soit bien intégré dans le milieu. Et c'est là-dessus qu'on travaille très fort avec la mairesse et avec CDPQ.
Espérons-le.
Pour avoir cette gouvernance qui va nous permettre de réussir, parce que, M. Lagacé, on n'a pas le choix de réussir ce projet-là pour l'Est de Montréal.
Merci beaucoup, Mme Rouleau. Bonne journée, bonne fin de semaine.
À vous aussi.
Salut.
Merci beaucoup.
Patrick Lagacé en accéléré.
Homéopathie. Est-ce que vous prenez des remèdes homéopathiques? Écoutez, si vous le faites, j'espère que vous ne pensez pas que ça fonctionne parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose de scientifique dans les remèdes homéopathiques. On va en parler immédiatement avec Olivier Bernard. Vous le connaissez bien, c'est le pharmacien. Olivier est pharmacien et aussi vulgarisateur scientifique. En novembre 2019, Olivier Bernard a remporté le prestigieux prix John Maddox en Angleterre, récompensé pour avoir remis en question une fausseté, c'est-à-dire l'efficacité des injections de vitamine C comme traitement contre le cancer. Salut, Olivier!
Allô?
Donc là, on a une étude qui a été publiée tout récemment dans le British Medical Journal of Evidence-Based Medicine qui a fait une revue de littérature et qui confirme ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que l'homéopathie, c'est un peu de la bouillie pour les chats.
Oui, exactement. En fait, c'est une gigantesque analyse. Ils ont pris toutes les études de l'homéopathie qui ont été faites depuis 10 ans. Puis, ils sont venus apporter quelque chose d'un peu nouveau de ce qu'on savait déjà. Donc, on savait déjà que l'homéopathie, ça marche pas. Ça n'a pas d'efficacité, c'est un placebo. Ça, on le savait déjà. Ce qu'eux sont allés vérifier, c'est comment ça se fait que des fois, les homéopathes ou les compagnies d'homéopathie arrivent avec une étude positive. C'est une étude qui donne l'impression que ça marche. Et ils se sont rendu compte qu'en fait, c'est que les compagnies d'homéopathie procèdent de manière qui n'est pas rigoureuse, qui n'est pas honnête, qui n'est pas transparente. Donc, ils vont pas publier les résultats quand ils sont négatifs, par exemple, ou encore, ils vont finalement pas enregistrer leurs études. Ils vont modifier le protocole en cours de route. Donc, ils font toutes sortes de petits passe-passe pour donner l'impression que ça marche alors que ça marche pas.
Pour situer les gens, là, c'est quoi donne-nous des exemples de remèdes, de pilules homéopathiques.
Ben, des remèdes homéopathiques, il y en a des centaines. Ça, si vous allez à la pharmacie ou dans des boutiques de produits naturels, il y en a plein. Peut-être même que les gens en prennent sans le savoir, parce que souvent, c'est écrit tout petit dessus, le produit homéopathique. Un truc pour s'en rendre compte, c'est que les ingrédients sont tout le temps, c'est des noms incompréhensibles. Ça va être des trucs un peu en latin. Puis quand vous cherchez, c'est tout le temps des ingrédients vraiment bizarres. Par exemple, il y a des remèdes homéopathiques qui sont à base de graines de béton du mur de Berlin.
Comment?
Il y a aussi des granules homéopathiques qui contiennent la lumière concentrée de Vénus. Il y a aussi des remèdes homéopathiques qui contiennent, puis là, je m'excuse, là, c'est du pus de gonorrhée d'une personne qui n'a pas encore pris des antibiotiques. Donc, ils prennent toutes ces affaires-là bizarres, puis ils les diluent à l'infini, essentiellement. Donc,
OK, voilà,
ça marche pas.
Olivier, d'habitude, d'habitude, je sais pas c'est quoi les habitudes dans ce domaine-là, mais l'homéopathie implique une certaine dilution, non?
Oui, il faut diluer les substances là, à des niveaux qui sont difficiles à imaginer. Là, donc, c'est par exemple, pour donner un ordre de grandeur, ils peuvent prendre, prenez une graine de n'importe quelle substance, mettez ça dans le fleuve, C'est l'équivalent d'une dilution homéopathique standard, là, c'est-à-dire une goutte de n'importe quoi dans tous les océans de la planète Terre. Ça, pour eux, c'est une dilution normale en homéopathie. Là.
Qu'est-ce que c'est censé guérir dans leur marketing?
C'est supposé, ben, il y a des remèdes, vraiment, comme je disais, il y a des centaines de remèdes, c'est supposé guérir à peu près tout, donc ça va de la fièvre, la toux, ça peut être l'asthme, mais ça, il y a même des choses graves, là, donc il y a des remèdes homéopathiques qui prétendent traiter sclérose en plaques, le cancer, des problèmes au niveau du foie, des reins, donc à peu près tout, en fait.
Olivier, il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me pose une question très pertinente. Si le remède homéopathique ne fonctionne pas, puis les scientifiques savent depuis longtemps que ça fonctionne pas, là, pourquoi est-ce que ça se retrouve dans les pharmacies?
Ah, ça, c'est la grande question. en fait, probablement que la plupart des gens ont une réponse en tête qui est « ben, c'est pour faire de l'argent ». Puis moi aussi, je pensais ça avant, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'argent à faire ces produits-là. C'est pas des produits qui ont des grosses marges de profit. La vraie raison, c'est que personne prend la responsabilité de mettre ces produits-là à la poubelle. C'est-à-dire que si vous demandez aux pharmacies, les pharmacies vont dire « ben là, nous, c'est les chaînes qui décident, hein, Jean Coutu, Pharmaprix, Uniprix, etc. Les chaînes vont dire, ben c'est pas nous qui décident, c'est les grossistes qui nous donnent du stock puis qui mettent ça sur les tablettes. Les grossistes vont dire, ben c'est à Santé Canada d'avoir une meilleure réglementation. Puis Santé Canada disent que c'est aux pharmaciens d'utiliser leur jugement. Donc, c'est comme une sorte de boucle infinie où tout le monde se lance la balle, mais personne ose faire le move pour sortir ça des commerces.
Mais penses-tu qu'un jour, on va regarder dans le rétroviseur puis on va se dire, écoute, les grandes bannières, les grandes pharmacies, les Pharmaprix, les Uniprix, les Jean Coutu, là, pensons à toutes les pharmacies, vendaient des médicaments homéopathiques. Penses-tu qu'on va regarder ça de la même façon qu'à l'époque où on vendait des cigarettes à pharmacie?
Ah, je suis sûr que oui. Je sais pas si ça va être de mon vivant. Moi, ça fait des années que j'essaie de faire des choses pour aider la situation, que ça aille plus vite. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé d'assez significatif. Il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, l'Ordre des pharmaciens a dit qu'un pharmacien ou une pharmacienne qui recommanderait de l'homéopathie en prétendant ou en laissant croire que c'est efficace se mettrait en position d'infraction disciplinaire. C'est quand même grave, là. T'as un produit en pharmacie que si jamais tu laisses croire que ça marche, t'es en infraction déontologique. Donc, la prochaine étape logique, c'est de sortir ça des pharmacies.
Mais, je vais te faire un parallèle. Évidemment, si un pharmacien, une pharmacienne disait prenez ça, cette pilule-là, là, cette granule-là, puis ça va vous aider pour telle affaire, c'est sûr que c'est une faute éthique qui est grave, là. Cependant, tu sais, il y a beaucoup de groupes religieux qui ont voulu faire des ateliers dans des écoles, qui ont voulu avoir des activités dans des écoles. Puis au nom de la séparation de l'État puis de la religion, on dit toujours non. On essaie de les repousser. On veut même pas qu'il y ait des kiosques, des présences à l'école. D'avoir une présence homéopathique dans les pharmacies, ça envoie un message qui est un petit peu tordu.
Ben, oui, puis surtout que les principes le fondateur de l'homéopathie relèvent de la magie essentiellement. Là, c'est de l'ésotérisme. Là. Donc, oui, on pourrait faire le parallèle. En même temps, ici au Canada, on a la liberté de religion, la liberté de culte, ça relève des croyances. L'homéopathie, ils prétendent que c'est des traitements efficaces au même titre que des médicaments. Mais ça, il y a des lois pour ça. Il y a des lois qui relèvent des traitements médicamenteux. Et finalement, ces lois-là, il y a toutes sortes de failles à l'intérieur qui font en sorte que les produits homéopathiques peuvent continuer à être vendus. Donc, si Santé Canada resserrait ses règles, logiquement, il pourrait au moins ne plus faire de promesses de traitement. Il pourrait plus dire, ben ça traite ça ou ça traite ça. Ça serait déjà un bon départ, je pense.
Olivier, je t'amène sur un autre terrain. Je le rappelle, tu as gagné un prix prestigieux, qui est le prix John Maddox, décerné en Angleterre. Tu as été récompensé. C'était en novembre 2019, là, quelques mois avant le début de la pandémie, pour avoir remis en question les injections de vitamine C utilisées comme traitement pour le cancer. Il n'y avait pas de données scientifiques, il n'y avait pas de base scientifique qui disait que c'était utile. Toi, tu t'es élevé puis tu avais dit ça. Et même avant la pandémie, tu soulevais dans la place publique l'importance de se fier aux données, de se fier à la science. Depuis 2 ans, est-ce que tu trouves que l'image de la science s'est améliorée ou elle en a pris pour son rhume?
Ben en fait, ça dépend selon qui, hein, parce que je pense que c'est sûr qu'on a peut-être sous-estimé la force de certains groupes qui vont pousser des concepts pseudo-scientifiques ou non-scientifiques. Là, tu sais, avant on disait tout le temps, par exemple, tu sais, les gens qui sont contre les vaccins, c'est peut-être 1-2% de la population max. Là, quand on a vu les statistiques là, pendant la pandémie, c'était un peu plus que ça. Donc, je pense qu'on a été un peu tous pris par surprise. Mais il reste que la vaste majorité de la population fait quand même confiance en grande partie à la communauté médicale et scientifique. Donc, je pense que ce que ça révèle, là, c'est que de combattre la désinformation, les pseudo-sciences, ça montre à quel point c'est important de le faire. Puis on était plusieurs à le dire depuis plusieurs années, mais c'est comme si c'était un peu abstrait. Puis là, ben, la pandémie a montré à quel point ça pouvait être grave, la pseudo-science.
Je le souligne, Olivier, parce que toi, avant qu'on parle de l'importance de la science depuis 2 ans, depuis la pandémie, dans ton personnage du pharmacien, tu le faisais, et de la même façon que bien des médecins, bien des scientifiques qui ont pris la parole sur la place publique depuis 2 ans, tu t'étais fait lancer des tomates, tu avais été victime de harcèlement en ligne. Donc, je pense que ce que tu as constaté depuis 2 ans, t'en avais eu un aperçu avant ça.
Ah, oh, totalement. Puis ça a continué, là. Je veux dire, moi, depuis les 2 dernières années, c'est sûr qu'on continue à vivre de l'intimidation, du harcèlement de gens ou de groupes qui s'opposent aux mesures sanitaires, dans ce cas-ci, par exemple. Donc, c'est ça, c'est une stratégie qui devient de plus en plus commune, malheureusement, qui est de, pour essayer de faire taire les scientifiques, bien, on essaie de les intimider jusqu'à temps qu'ils se taisent. Donc là, c'est tentant de se taire, mais il faut pas. T'sais, il faut qu'on se tienne puis qu'on continue finalement à donner la bonne information. Ça, c'est vraiment important. Puis il y a de plus en plus de gens qui l'ont fait, de plus en plus de scientifiques qui le font depuis la pandémie. Puis ça, je suis vraiment content de ça.
Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler, Olivier. Salut.
Bien, pareillement. Bye-bye.
Bonne fin de semaine. C'était Olivier Bernard, vulgarisateur scientifique bien connu en vertu de son personnage, le pharmacien. Salut, Luc.
Hey Patrick, excuse-moi là, mais il va falloir que tu me contrôles parce que il y a des chiffres à mort là-dedans. Là. Puis on est vendredi soir,
wow,
c'est compliqué.
Que je te contrôle pour ta chronique sur le fond vert.
Oui.
Ok, calme-toi.
Il y a des chiffres.
On va y aller lentement. D'abord, okay, explique au monde c'est quoi le fond vert. On va commencer par la base.
Bon, le fond vert, c'est un fond qui est constitué de 3 sources qui alimentent une réserve que l'État peut utiliser pour mettre en place des mesures qui vont permettre de lutter essentiellement contre les gaz à effet de serre.
Okay.
Les 3 sources, c'est le droit de polluer l'air, c'est-à-dire de produire des gaz à effet de serre, le droit de produire des déchets et le droit d'utiliser de l'eau ou de polluer de l'eau. Lorsque tu achètes ce droit de polluer sous la forme de taxes ou sous la formation de crédit dans la bourse carbone, tu envoies de l'argent au gouvernement. Le gouvernement utilise cet argent-là pour le réduire, lui, de son bord.
OK.
Voilà, c'est ça le fond vert.
OK, puis qu'est-ce qui ne marche pas avec le fond vert? Pourquoi tu dis que c'est une patente? Toi, là, qui es un écologiste, tu devrais être content qu'il y ait un fond vert.
Oui, je suis très content qu'il y ait un fond vert, mais ça ne pourra jamais fonctionner parce que, et on a plein de preuves que ça ne fonctionne pas, malgré les efforts du ministre de l'Environnement qui, là, doit déposer un nouveau plan, parce que ça fait deux fois qu'il dépose des nouveaux plans. D'ailleurs, le fonds vert est devenu le fonds pour l'électrification, etc. Il l'a restructuré une première fois. Là, il va proposer un nouveau plan d'action tout de suite après le budget. Donc, des efforts importants pour essayer de faire marcher la patente. Mais une auto avec 2 roues juste d'un bord, ça peut pas fonctionner. Puis un fonds vert, c'est si qui impose aucune contrainte ni aux personnes, ni aux entreprises qui essaient de trouver des moyens de réduire les gaz à effet de serre, mais en imposant le minimum de contraintes à tout le monde, ça ne peut pas fonctionner non plus. Et les exemples sont nombreux. Bon, là, premièrement, tu vois, on a eu une nouvelle, là, c'est la raison pour laquelle je te parle du fonds vert, c'est que le fonds vert, il devait générer 800 millions de dollars de revenus cette année, il a généré 1,3 milliard, donc on a 500 millions de dollars de plus. Mais avec la définition que je t'ai donnée tantôt, c'est pas vraiment une bonne nouvelle parce que si tu génères 500 millions de dollars de plus, c'est parce qu'il y a plus de monde qui ont pollué.
Oui.
C'est pas rien, l'argent qu'on va chercher avec ça. Là, c'est, par exemple, pour l'automobiliste à la pompe, c'est 8 cents le litre, le fonds vert. Les mesures qui sont inscrites dans le fonds vert représentent environ 8 cents de litre, tel que calculé par Pierre-Olivier Papineau là, de la chaire truc-machin au HEC. Et donc, c'est beaucoup d'argent. Puis là, tu dis, ben, avec cet argent-là, le gouvernement devrait être capable d'avancer. Bon, premièrement, il faut comprendre que tu ne peux pas utiliser cet argent-là pour autre chose que pour de l'environnement. Tu ne peux pas prendre cet argent-là et dire, OK, ben là, il manque des places en garderie, on va utiliser l'argent pour les places en garderie. Il faut que tu l'utilises. Alors, il se crée un surplus. Puisque le gouvernement n'arrive pas à le dépenser. Le gouvernement ne veut pas révéler l'ampleur du surplus, mais il n'arrive pas à le dépenser. C'est déjà une mauvaise nouvelle. La deuxième chose, il n'arrive pas à l'augmenter non plus, c'est qu'il y a des mesures qui pourraient être mises en place, très simples, pour mettre beaucoup d'argent dans ce fonds-là qui permettra de faire des vraies mesures vraiment spectaculaires. Puis, je te donne l'exemple de la redevance sur l'eau. On en a parlé, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a quelques semaines. L'eau au Québec, on la donne. Là. Les trois alumineries d'Alcoa à Québec, en 2015, j'ai le chiffre de 2015, là, 1 milliard de litres d'eau, 2 500 $. Et ça, c'est l'eau qui est déclarée par eux, parce qu'il n'y a pas d'inspection.
Luc, il me semble, là, dans un vieux débat sur l'eau, là, il y a plus de 15 ans, là, peut-être même 20 ans, je pense que le danger de se mettre à tarifer l'eau comme ça, c'est que ça devienne une ressource qui devienne comme n'importe quelle autre ressource, là, qui soit ouverte à certains...
Des échanges, oui, d'embouteillage, oui, oui. Etc. Ben non, mais tu peux contrôler ça. Effectivement, il faut pas aller là. Il y a eu plein de projets d'embouteillage qui ont été arrêtés par des municipalités. Effectivement, faut... Puis non plus, il y a ce grand projet de vendre de l'eau aux États-Unis, là, qui est un vieux projet qui date de l'époque des grands projets hydroélectriques, d'inversement d'une rivière pour alimenter toute le dry belt aux États-Unis, là, tout ce qui est en bas des grands lacs. Effectivement, non, il faut garder notre eau. Mais puisqu'on l'utilise, cette eau-là, au quotidien, les entreprises l'utilisent au quotidien notamment, on pourrait la taxer un petit peu. Là. Pas énormément, mais pourquoi pas un peu. Regarde, quand je te dis 2 500 $ pour une entreprise qui a trois alumineries, tu comprends-tu que 2 500 $ pour un particulier, je comprends, là. Mais t'as trois alumineries, là, qui font des... Puis en ce moment, là, ils font énormément d'argent. Puis là, y a même chose avec les mines, là. T'as vu la valeur du nickel qui s'est envolée, là. Il y a de l'argent qui coule à flot, là. Des millions de dollars, là, qui coulent à flot. C'est le temps d'aller le chercher. C'est le temps d'aller chercher une partie de cet argent-là et de le redonner pour, par exemple, bon, il y a... Tous des projets du Fonds vert ont transformé des autobus du pétrole à l'électricité, augmenté le nombre de stations de recharge électrique, diminuer le coût de l'électricité ou la taxe sur la consommation d'électricité lorsque c'est lié à une automobile, les mesures qui sont faites en Norvège, par exemple. Donc, nous, il y a quelques-unes de ces actions-là qu'on fait. Par exemple, les autobus électriques. On transforme des autobus de pétrole à des autobus électriques. D'ailleurs, ça a donné lieu à une drôle d'affaire récemment, quand les compagnies de production d'autobus à essence et diesel ont vu qu'il y aurait bientôt l'obligation d'avoir des autobus électriques, se sont mis à acheter massivement des autobus au diesel jusqu'à la dernière minute pour être bien sûr de ne pas avoir à utiliser des autobus électriques plus tard. Mais donc, des petites mesures, là, tu vois qu'il y a des petites mesures qui toucherait pas beaucoup le consommateur, pourrait être mise en place, mais il y a une résistance psychologique. Il y a une résistance psychologique par le gouvernement. Il considère que on ne doit pas contraindre le consommateur. Puis ça, je te donnais l'exemple avec l'eau, mais je peux te donner l'exemple aussi avec les voitures, avec les camions. Regarde, sans être un apologiste là, de la taxation à tout craint, là on dit... on ne veut pas mettre aucune taxe particulière supplémentaire sur un gros véhicule qui consomme beaucoup d'essence. Le REM a tout cassé, le REM de l'Est, là, a tout cassé. Là, en étirant les chiffres, là, toi, à mort, là, ça va couper 8 000 voitures. OK? 8 000 pour 10 milliards de dollars. Les calculs de l'ARTM, c'est moins de 3 000 voitures. Mais on va prendre les chiffres du gouvernement, 8 000 voitures. Une petite augmentation du litre du coût d'essence enlève tout de suite ces 8 000 voitures-là de la route, immédiatement. Puis c'est ce qui se produit en ce moment avec l'augmentation du baril de pétrole. Sans dépenser ton 10 milliards de dollars, là, juste une petite augmentation du coût à la pompe, il y a des gens qui se mettent à prendre le transport en commun ou qui se mettent à faire du télétravail. Dis-moi, moi, je vais aller une fois ou deux fois au bureau par semaine au lieu de 5 fois. Donc, des petites contraintes peuvent avoir de l'impact. Mais on se refuse à faire ces contraintes-là au Québec.
Merci, Luc. Bonne fin de semaine.
Merci à toi.
Patrick Lagacé en accéléré.
Il y a plus de 3,2 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays en guerre, tous des réfugiés. Il y a des Canadiens qui sont nombreux à être partis à la rencontre, à la recherche de leurs proches pour les rapatrier au Canada, pour les aider, que ce soit de façon matérielle, à sortir du pays de façon concrète ou aux frontières dans les pays limitrophes, là, comme la Pologne, comme la Hongrie, comme la Roumanie, pour essayer de les aider à naviguer dans tout le système bureaucratique politique de l'immigration canadienne. Oleg Kolyboshin a été souvent sur nos ondes dans les dernières semaines. Il est allé, lui, là-bas pour aider. Il était en Roumanie. On le retrouve tout de suite à Paris. Salut, Oleg.
Bonjour, Patrick.
T'es sur le chemin du retour?
Oh oui, quel soulagement.
Qu'est-ce que tu retiens de tes 3 semaines là-bas, surtout en Roumanie?
Mais bonne question. Je retiens que je suis fier canadien, je suis fier d'être protégé par le Canada, par le gouvernement. Je suis très fier de voir les gens, les Québécois, les Canadiens qui m'encourageaient pendant toutes les 3 semaines. Je retiens beaucoup une autre côté de la guerre qui est côté humain, très humain. Je retiens aussi mes émotions parce que, comme je disais plusieurs fois, comme j'ai jamais pleuré, mais pendant 3 semaines, c'était juste les larmes.
Voilà. C'était juste les larmes parce que tu étais là-bas et tu voyais concrètement le résultat de l'attaque russe sur l'Ukraine.
Ah oui, j'étais aussi à la frontière. J'ai fait le bénévolat à la frontière 2 fois. Mm. Et j'ai vu les gens. En fait, je retiens ces jours quand j'ai vu les gens venir. J'ai aidé, j'ai vu les armes aux yeux, j'ai vu les reconnaissances des aides qu'on donne, les Romains, les autres. Mais il y avait beaucoup de gens de l'Europe qui sont venus donner un coup de main. Aussi, j'étais dans le centre de traitement des réfugiés ukrainiens et je retiens les histoires. Oh mon Dieu, je pouvais jamais imaginer que dans mon pays, j'aurais les histoires tellement horribles que je pouvais même pas imaginer. Donc, oui.
Bravo, Oleg. On trouvait ça important de te parler parce qu'on t'a parlé souvent comme ça. Je sais que ta famille, t'a réussi à les aider. Est-ce que tu estimes que tu as réussi la mission que tu t'étais donnée quand tu es parti pour aller aider des proches?
Mais la mission, quand je suis parti, c'était pour répatrier ma famille. En fait, j'ai réussi aussi à aider aux autres Ukrainiens, pas juste remplir les papiers pour l'immigration, mais aussi les loger, les nourrir, payer les visas. Mais c'est pas fini, parce que en revenant au Canada, je vais donner le soutien psychologique en ligne aux Ukrainiens qui sont dans le pays.
Mmh, mmh. Là, vous allez être 8 dans votre maison de Châteauguay, là.
Oh, oui. Oui, ça va être 8.
ça va être tassé, mais ça va être plein d'amour.
Oui, absolument, oui. Oui, mais c'est important aussi d'être ensemble au début. Moi, j'ai vécu l'immigration, donc je sais qu'au début, on doit être entouré, oui.
Oleg, je sais que tu travailles comme travailleur en éducation spécialisée dans une école à La Salle. Et j'aimerais que tu prennes un moment pour raconter comment la communauté de l'école s'est ralliée autour de ton projet quand tu es parti à la dernière minute, il y a 3 semaines.
Oui, j'ai été énormément reconnaissant. Je me sens plus soudé avec mon équipe, plus qu'avant. Au début, quand j'ai annoncé que je pars, à peu près à 12 heures, ils ont réussi à ramasser 5 000 $ pour que je puisse partir sans avoir des soucis. Donc, et en plus, pendant toutes les 3 semaines, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour, des messages, etc., des supports de la part de mon équipe. Je dis mon équipe, oui.
Donc, de l'argent et un appui moral. L'appui moral, c'était pas à négliger non plus. Là. Ça t'a fait du bien.
Oui. En plus, je peux dire qu'il y a une autre école qui se mobilisait. C'est l'école où travaille ma femme, comme elle proposait aux élèves handicapés. C'est une école John F. Kennedy qui a aussi beaucoup aidé à ma femme, à moi, qui ont ramassé aussi à peu près 2 500 $.
Et Oleg, on n'a pas mentionné le nom de ton école. Dis-le donc et salue des gens.
Oui, c'est l'école Notre-Dame des Rapides à La Salle, à Montréal. Mais je peux pas nommer toutes les personnes, mais je peux nommer la directrice qui est Natacha Bouchard, qui est la meilleure directrice. C'est vrai. C'est pas juste parce que.
Hey, Oleg, merci. Ça a toujours été un plaisir de te parler pendant que tu étais là-bas. Et même avant, on t'avait parlé quand tu préparais ton départ. Merci. Je te souhaite un excellent retour. Et écoute, au plaisir de te reparler.
Merci.
Salut, à la prochaine. Bientôt. C'était Oleg Kolyboshin, on lui a parlé souvent. En transit à Paris, Oleg devait rentrer aujourd'hui, mais à cause des mesures sanitaires, a raté sa correspondance vers Montréal, va donc débarquer demain. OK, une autre entrevue sur le même sujet. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent aider de plein de façons. L'histoire, des Ukrainiens, l'histoire des bombardements russes, de l'agression russe qui pousse des Ukrainiens sur la voie de l'exil, ça nous touche tous. Et je sais, parce que vous m'écrivez, il y a énormément de gens qui voudraient faire beaucoup, beaucoup plus. Il y a toutes sortes de gens qui se mobilisent. On va parler tout de suite avec Carole Dussault. Elle est directrice des communications pour la Croix-Rouge canadienne au Québec. Madame Dussault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
D'abord, situons un peu les gens. Qu'est-ce que la Croix-Rouge fait pour les Ukrainiens présentement?
En ce moment, si on parle du grand mouvement international de la Croix-Rouge ukrainienne, autant que les Croix-Rouges des pays limitrophes comme la Pologne, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie, il y en a quelques autres quand même aussi, sont mobilisés pour apporter de l'aide avec des items, des biens de première nécessité tels que des vivres, de l'eau, des trousses d'hygiène, d'autres types d'articles, autant aux populations présentes en Ukraine comme dans les stations du métro de Kiev, autant pour les Ukrainiens et autres qui sont déplacés vers les pays limitrophes. Donc, le grand mouvement international de la Croix-Rouge est mobilisé. Puis la contribution de la Croix-Rouge d'ici, a priori, c'est effectivement d'offrir les dons, la générosité que les gens ont en ce moment envers cette crise humanitaire, de sorte que les Croix-Rouges des pays limitrophes et de l'Ukraine puissent faire l'acquisition de ces biens-là de première nécessité, de médicaments et autres. Donc, notre soutien financier ici permet aux Croix-Rouges de là-bas d'apporter là, un premier secours prêté main forte là, à ce qui se passe en crise humanitaire là-bas.
OK, je sais que la Croix-Rouge recueille des dons à l'année, là, mais Mme Dussault, si les gens veulent aider précisément pour l'Ukraine, est-ce que si quelqu'un décide d'envoyer 20 $, 50 $, 100 $ aujourd'hui, est-ce que la personne ici à Montréal, au Québec, peut avoir l'assurance que ça va se rendre là-bas?
Absolument. Parce que pour chaque crise ou catastrophe, que ce soit une catastrophe naturelle ou dans ce cas-ci la crise humanitaire en Ukraine, on ouvre un fonds spécifique. Donc, le fonds que nous avons ouvert pour la crise humanitaire en Ukraine, tous les fonds qui sont amassés dans ce fonds-là vont à cette crise-là. On fait donc des transferts de fonds au mouvement international qui, lui, coordonne l'aide. Parce que ce que l'on veut, c'est que les bonnes choses arrivent aux bons endroits pour les besoins urgents puis les besoins émergents sur le terrain. Donc, en travaillant tout le monde ensemble comme ça, comme c'est le cas dans plusieurs crises, on est capable d'identifier quels sont les besoins. Puis ce qui a été amassé jusqu'à présent au Canada, au Québec, est en grande partie déjà versé au mouvement international pour couvrir des besoins. Des besoins comme de l'insuline qu'on a envoyé dans diverses villes, des besoins comme de l'eau, des besoins comme aussi des besoins matériels pour accueillir les gens qui sont déplacés. Il y a aussi d'autres Croix-Rouges qui ont mobilisé de leurs équipes pour être déployés dans les pays limitrophes. Vous voyez des convois d'autobus, d'autres types là, de biens matériels qui sont acheminés. Donc, les fonds amassés servent sur le terrain là-bas. Et on a commencé aussi à déployer certains de nos spécialistes parmi nos équipes de la Croix-Rouge canadienne qui sont rendus sur le terrain.
OK. Il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit est-ce qu'il faut faire confiance aux gens qui font du porte-à-porte puis qui disent travailler pour la Croix-Rouge?
Nous avons des équipes de porte-à-porte qui sont dûment identifiées. Si les gens ne sont pas certains, ils peuvent nous appeler puis nous demander si effectivement ce sont des bonnes personnes au bon moment, aux bons endroits. Donc, si les gens, par contre, veulent être certains que leur don se rende effectivement à la Croix-Rouge, il y a diverses façons de donner, c'est très, très simple. D'une part, sur notre site web, au croixrouge.ca, c'est très clair, le fond de la crise humanitaire en Ukraine, c'est ce qui apparaît en premier sur le site web. Si les gens préfèrent donner au téléphone versus donner en ligne, il y a une ligne qui est facile à retenir aussi, c'est le 1-800-418-1111. Et il y a une autre façon, la troisième, c'est la dernière, je vous le dis, c'est les gens peuvent faire aussi un don par texto. C'est un don de 10 $ en textant Ukraine au numéro 20-222, donc 20-222. C'est trois façons absolument faciles et efficaces aussi de donner. Donc, puis on le voit, la générosité des gens se fait encore sentir là. j'en profite pour les remercier d'ailleurs.
Prenez-vous des dons matériels, des vêtements, des couvertures?
Non, la Croix-Rouge ne recueille pas de dons matériels parce que, d'une part, dans ce cas-ci ou dans d'autres cas, question de distance et autres, mais on privilégie beaucoup depuis plusieurs années les dons en argent parce que bon, ça permet d'adapter la livraison de biens, là, de vivres, etc., aux besoins du terrain, les besoins urgents. Ça permet de les adapter, de les envoyer au bon endroit, au bon moment. Ça permet aussi de favoriser, je vous dirais, dans une certaine mesure aussi, l'économie locale, là où il y a les impacts d'une catastrophe ou d'une crise. Donc, si on est en mesure aussi, par le biais là, de transfert de fonds, de faire en sorte qu'il y a des achats qui se passent sur les endroits où il y a des catastrophes ou des crises, ça encourage l'économie locale là-bas aussi. Et bon, évidemment, si c'est possible aussi, on économise d'autres types de frais. Mais on privilégie vraiment les dons en argent pour avoir une capacité d'adapter la réponse aux besoins urgents.
Très bien, merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous, Mme Dussault.
Ben, merci pour votre temps et puis merci aux gens qui donnent dans le cadre de cette crise humanitaire. Merci beaucoup.
Plaisir. Carole Dussault de la Croix-Rouge canadienne au Québec. Écoutez, croixrouge.ca, les numéros de téléphone, les fonds spéciaux sont là. Vous pouvez même texter 20-222-20-222 pour un don de 10 $ par texto. De temps en temps, là, dans les prochaines semaines, on va mettre des gens en onde comme ça, d'organismes qui aident sur le terrain en Ukraine et autour de l'Ukraine.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.